Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs d'RGVM. Nous sommes ensemble une heure pour l'émission La parole est à vous. Alors, magazine consacré à la Ligue des droits de l'homme, section de Romeron et des Vallées.
Oui.
Avec Christiane, bien sûr.
Oui, hein, bonsoir.
Avec Michel.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et puis, en renfort aujourd'hui, Christine Grivel, d'Asile Accueil 88.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Un sujet qui est celui de la difficulté que peut avoir au niveau pour les migrants, le problème de pouvoir maîtriser le français en particulier, c'est ça?
En particulier, oui. Je ne sais pas si je vais aborder le problème tout de suite comme ça, mais...
Toutes les démarches administratives que les migrants sont obligés de faire, c'est pas facile.
Oui.
Hein, comme,
c'est le parcours du combattant.
Comme dirait un jour une... c'était Odile qui la réflexion en disant on ne devrait jamais appeler les migrants les sans-papiers parce qu'on leur demande des tonnes de papiers.
Hein. Ouais.
C'est vrai que plus de manière de plus en plus centralisée, l'accueil aussi pour les migrants est terriblement décevant, sachant que dans le département il y a moins de moyens aussi. Hein, voilà. Bon, je sais pas. Alors quelle est la situation aujourd'hui, Christine? Et puis, justement, tu veux lancer un appel aujourd'hui?
Oui, je vais lancer un appel. Je lance toujours un appel à la solidarité de façon différente selon ce que la personne, ce que vous, chacun d'entre vous, pourrez donner en fonction de vos possibilités et aussi de vos choix divers et variés. Mais on est accueillant pour les personnes migrantes et on est accueillant pour les bénévoles qui sont sensibles à cette cause et à cette action au quotidien. Donc je vais parler un peu d'abord de l'association Asile Accueil 88 que je représente aujourd'hui. Voilà, je resituerai tout ça dans un contexte plus global, d'une part historique, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission, c'est très long tout ça. Resituer l'immigration dans un contexte historique, c'est toujours important parce que l'immigration a toujours existé, elle existera toujours. Voilà, c'est déjà, voilà, on ne peut pas échapper à ce fait. Ni à l'analyse nécessaire, ni au positionnement nécessaire par rapport à ce fait de toutes les sociétés. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc le caractère historique, le caractère politique, géopolitique on va dire, puisque toute la planète est concernée, d'autant plus concernée que l'immigration va de plus en plus devenir climatique, voilà, qu'elle l'est déjà. Et que les positionnements des pays actuellement, ce qu'on peut voir depuis plusieurs années, et ça s'est accéléré depuis un an bien sûr, avec ce que proposent les États-Unis comme accueil et surtout comme rejet de la migration. Voilà. Donc ce paysage géopolitique pèse sur nous et pèse sur la France, puisqu'on est, on fait partie de tous ces pays qui accueillent. Je ne vais pas vous donner des tonnes de chiffres aujourd'hui, on accueille moins que les autres, hein. On accueille moins que l'Allemagne, par exemple. Il y a beaucoup de fake news qui circulent autour de tout ça. J'entendais ce matin à la radio un rappel de ce sentiment dans lequel on est tous, enfin les Français, par exemple, qui étaient interrogés sur combien de pensez-vous qu'il y a de musulmans en France ? Et les Français répondent 31% de musulmans. Et la réponse est 9%. Donc on sent bien que entre les chiffres et les impressions et les sentiments et ce qu'on appelle l'opinion publique auquel se réfèrent tous les politiques pour faire des discours et prendre des décisions, il y a quand même une marge et que c'est compliqué d'appréhender et d'accepter la réalité. Donc ça, j'en suis, pardon, Michel veut me poser une question, mais je vais dérouler juste un peu ce que je vais faire. Là, je suis plutôt dans ce que je vais pas tout vous raconter, parce que c'est une partie assez longue, mais tout à fait passionnante, sur l'immigration, depuis des siècles et maintenant. Et je vais dérouler plutôt, en tout cas pour commencer, ce qui se passe dans les Vosges, Et notre association, petite association, Asile Accueil 88, qui aura 10 ans l'année prochaine, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on essaye de mettre en place, et particulièrement après, sur Remiremont, ce qui se passe, et la vallée, ce qui se passe, et ce que nous, bénévoles du groupe de Remiremont-Vallée, nous essayons de proposer aux personnes migrantes que nous rencontrons.
Si je peux me permettre, si aujourd'hui l'opinion publique est justement c'est fabriquée par les médias et c'est vraiment déplorable, parce que ces médias-là font la part belle à l'extrême droite par rapport à certains partis politiques, et là on peut s'en apercevoir par l'intermédiaire. Certains chroniqueurs aussi. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est en tournant, d'autant plus possible qu'on veut rester aussi par rapport aux radios comme la nôtre, RGM. Depuis, les moyens vont se restreindre, je vais dire presque au profit de certains groupes comme Bolloré et autres qui aujourd'hui diffusent essentiellement les opinions d'extrême droite, y compris par rapport à l'immigration. Enfin, on peut s'arrêter là.
C'est en effet le paysage dans lequel nous essayons d'agir.
Je crois qu'il y a quand même un gros travail de fait hein, par Asile Accueil Remiremont. On peut en savoir un petit peu plus et puis le nombre éventuellement de migrants et de personnes qui sont investies.
Donc oui, je vais aussi resituer. Donc Asile Accueil 88 est une association qui a seulement 10 ans, donc un peu jeune, mais avec un peu d'expérience maintenant. C'est une association départementale qui ne dépend pas, qui n'est d'une association nationale. La LDH, par exemple, est reliée à un mouvement national, la CIMAD aussi. Nous, on est une petite association qui fabriquons nos propres outils, enfin, du quotidien, nos propres démarches. On est beaucoup en réflexion sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit. Ce que je vous dis là, c'est pas seulement moi qui le dis. Ça est aussi issu d'une réflexion de notre conseil d'administration. Donc, on est une petite association. Il y a bien sûr un conseil d'administration. Moi, je suis coprésidente de l'association départementale. On est deux coprésidentes. Et cette association fonctionne avec 4 groupes qui sont relativement autonomes sur leur territoire, puisqu'il y a des réalités différentes selon les territoires. Il n'y a pas le même nombre de migrants et il n'y a surtout pas le même nombre de bénévoles, ce qui fait que la réponse qu'on peut apporter aux besoins des personnes migrantes n'est pas la même. Il y a un groupe à Épinal, il y a un groupe à Saint-Dié, il y a un groupe à Gérardmer-la-Bresse et il y a un groupe à Remiremont. Donc j'arrive sur Remiremont. Donc nous sommes engagés dans l'accompagnement des migrants et nos objectifs sont favoriser l'accueil digne des personnes migrantes. Parmi ces personnes migrantes, il y a les demandeurs d'asile. Parce que quand on est migrant, selon le parcours qu'on a eu, on n'est pas toujours demandeur d'asile. Enfin, je veux dire, il y a une grande variété, une grande complexité dans les profils des personnes migrantes. Dans nos objectifs, nous souhaitons aussi accompagner avec respect ces personnes dans leur parcours, dans leur démarche et leur recours pour l'accès à leurs droits fondamentaux. Nous souhaitons aussi organiser des rencontres pour favoriser l'intégration de ces personnes et animer des ateliers de français. Donc ça, je reviendrai dessus parce que le besoin se fait sentir de manière plus importante. Je vous dirai pourquoi. Nous souhaitons aussi impulser et coordonner nos actions sur le département et notamment aux côtés d'autres associations agissant autour de valeurs similaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec la EDH, qui est un de nos partenaires et nous sommes sur le même chemin de recherche de justice et de dignité. Et nous souhaitons aussi informer, sensibiliser et argumenter face aux discours xénophobes pour défendre les intérêts moraux des demandeurs d'asile et des personnes migrantes. Voilà, je vous ai dit en gros notre profession de foi, enfin sur quoi nous sommes. Et je vais arriver à des choses plus concrètes. Le groupe de Remiremont, donc je suis une des référentes du groupe de Remiremont, nous sommes plusieurs, nous sommes le groupe de Remiremont comprend à peu près 90 adhérents, ce qui est beaucoup. Sur ces 90 adhérents, il y a 30 personnes qui sont actives bénévoles. Parce que bien sûr, on peut être adhérent en donnant 10 euros par an, et c'est très important. Et merci à ceux qui sont adhérents et qui donnent un peu de sous, parce qu'on en a besoin. Nous ne sommes une association sans subvention, aucune. Nous n'avons pas de salariés, nous n'avons pas de locaux. Donc les sous sont les bienvenus. Après, je peux répondre aux questions pour demander qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on récolte. Et donc, cette association, à Remiremont, nous sommes 30 personnes actives, alors au quotidien et de façon différente, parce que chacun s'engage selon sa sensibilité, selon son temps, selon son emploi du temps, selon ses compétences. Donc nous agissons de façon différente. Je vous dirai comment tout à l'heure. Alors quel est le paysage de Remiremont? Qui sont les personnes migrantes qui habitent à Remiremont et dans la vallée? On n'a bien sûr pas aucune réponse exhaustive sur le sujet. Je ne sais pas, je ne connais pas, nous ne connaissons pas toutes les familles qui sont migrantes qui habitent sur le secteur. D'abord parce que il y en a des personnes étrangères qui sont là depuis très très longtemps, que nous n'avons pas rencontrées. Ensuite, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans leur famille, il y a des personnes étudiantes, il y a des personnes qui ont des profils un peu différents que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et bien sûr, les personnes que nous connaissons sont je ne sais pas si c'est une infime partie, mais en tout cas, je peux pas dire que c'est l'ensemble des personnes migrantes. Donc, nous en connaissons sur Remiremont, Fraisse-sur-Moselle et Rue-sur-Moselle, nous accompagnons 24 familles arrivées récemment. En plus de ces 24 familles arrivées récemment, on va dire, le récemment, ça peut être 2 ans, 3 ans, il y a les familles anciennes que nous avons connues il y a 10 ans, par exemple, et que nous rencontrons plus ou moins. On les rencontre moins parce qu'elles sont complètement autonomes, ou on les rencontre encore parce que leur insertion n'est pas terminée et qu'elles galèrent encore dans leur insertion. Et là, il y a des choses très concrètes actuellement, avec les retards des préfectures de toute la France, pour répondre aux demandes de renouvellement des cartes de séjour, c'est-à-dire des personnes qui sont là depuis 7 ans, qui travaillent, qui sont intégrées, que vous connaissez, voilà, qui sont vos voisins, qui ont un titre de séjour, que ce titre de séjour soit de 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, au moment où elles doivent renouveler leur titre de séjour, elles font une demande, voilà, soit à la préfecture, soit sur un site national qui s'appelle l'ANEF, là je rentre dans des détails, mais c'est très important. Soit à la préfecture, par courrier, soit sur un site national qui s'appelle l'ANEF, vous regarderez sur Internet, qui est un site obligatoire et qui l'année prochaine va devenir obligatoire pour tous, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'envoyer un courrier recommandé à la préfecture pour dire « voilà ma situation, voilà tous mes papiers », c'est-à-dire tous mes papiers, ça fait au moins une liasse de 20 papiers, hein, 20 documents, et je demande s'il vous plaît le renouvellement de mon titre de séjour. Tout le monde devra passer sur ce site et ça va être très compliqué puisque…
Très centralisé et très compliqué.
Bah, déjà compliqué à rentrer le dossier sur la nef, oui. Parce que c'est un site qui bug, et ça ce n'est pas que nous qui le disons. Donc nous accompagnons donc aussi des familles anciennes, je vous parlais des 24 familles arrivées récemment, mais nous accompagnons aussi des familles plus anciennes parce que l'intégration, eh ben ça se fait pas comme ça. L'intégration c'est un parcours du combattant et on pourra en parler plus. Il y a énormément de sujets, hein, les profils des migrants sont très très différents. Les familles que nous accompagnons, 24 familles arrivées récemment de 2 ou 3 ans et puis toutes les familles anciennes qu'on connaît depuis... qui sont arrivés parfois depuis 10 ans et dont certaines sont très bien intégrées qu'on ne voit plus et d'autres qui sont un peu moins intégrées, qui ont encore besoin d'aide. Et dans l'aide, il y a donc la grande complexité qui n'est pas que vosgienne du renouvellement des titres de séjour puisque toutes les préfectures sont en retard pour délivrer les nouvelles, enfin non pas les nouvelles, faire un renouvellement de titres de séjour. Les personnes migrantes ont des titres de séjour qui sont provisoire d'un an, de 2 ans, de 4 ans, de 10 ans, ça dépend de leur situation. Et je fais une parenthèse, il existe 74 titres de séjour différents en France. Donc voilà, c'est un peu complexe. Et donc quand la carte est périmée, il faut demander une nouvelle carte, soit par papier en envoyant un recommandé à la préfecture, soit sur un site qui s'appelle la NEF. Internet, et qui est un site très complexe, qui bug partout en France. Les préfectures reconnaissent que ce site bug, elles espèrent que ça va s'améliorer. Mais du coup, c'est complexe d'avoir un titre de séjour qui arrive au bon moment. Et quand le titre de séjour n'arrive pas au bon moment, des personnes qui travaillent depuis 6 ans, 7 ans, 10 ans, 2 ans, perdent leur emploi et perdent leurs droits sociaux, CAF et Sécurité sociale. perdre son emploi, ça veut dire le droit à travailler même, hein, pas seulement l'employeur. Voilà. Donc on est dans une situation très tendue par rapport à tout cela. Et donc c'est vrai que c'est un rôle important qu'on peut jouer parce qu'on est à l'écoute de ces personnes qui sont en grande difficulté.
On peut dire même inhumaine à certains moments.
Oui. Alors je voulais vous décrire les 24 familles peut-être que nous connaissons. J'avais donc dit que c'était 50 adultes, 70 enfants. Et vous dire qu'elles sont donc réparties entre Remiremont dans des appartements loués par la FMS, par exemple, la Fédération médico-sociale qui est donc diligentée par la préfecture pour faire le suivi des personnes migrantes, ou elles sont dans des collectifs à Fraisse et à Rue-sur-Moselle. Ces personnes viennent, souvent jeunes, alors viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Kazakhstan, d'Arménie, d'Albanie, de Turquie, de Serbie, du Kosovo. Elles viennent aussi d'Afrique et de plus en plus, elles viennent d'Afrique. Elles viennent de Sierra Leone, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de RDC, d'Algérie, de Libye et du Mali. Donc, ces personnes, nous les connaissons. Un bénévole et référent de chaque famille, voilà, pour faire un accompagnement. Un accompagnement pour juste pour avoir une relation avec elles, les accueillir, leur parler. Vous savez que si on leur parle pas, elles ne rencontrent pas de Français, ces personnes-là. Hein. Je veux dire, elles n'ont pas l'occasion de parler avec des personnes françaises. Voilà, donc c'est quand même très important d'avoir du lien, et c'est notre objectif premier, du lien. Et donc nous les accompagnons pour les aider. Et c'est les aider en fonction de leurs besoins. Les besoins ne sont pas les mêmes si elles viennent d'arriver ou si elles sont là depuis un an. Et que c'est, donc ça dépend aussi un peu de leur parcours. Je vous en parlerai peut-être un tout petit peu plus tard.
Je suppose que tous ces enfants sont scolarisés.
Oui. Le droit à l'école est premier. Donc, les enfants vont à l'école presque dès qu'ils arrivent. Juste, il y a la vaccination à vérifier. Il y a le CIO pour les plus grands, pour le collège, etc. Donc, c'est des démarches qui sont à faire. Je voulais juste préciser que quand ils arrivent et qu'ils déposent une demande d'asile, ils sont accompagnés par un travailleur social de la Fédération médico-sociale ou d'autres organismes. Et que ce sont ces travailleurs sociaux-là qui font les démarches d'inscription à l'école, de vérification des vaccinations, de faire le dossier de demande à C2S pour la sécurité sociale, les installer dans leur logement, leur expliquer le B.A.B.A., etc. Et les voir régulièrement dans le cadre de cette demande d'asile. Donc nous, bénévoles, nous intervenons en complément et en lien avec ces travailleurs sociaux. En lien pour le lien social dont je vous parlais, pour accompagner, quand le travailleur social peut pas parce qu'il est débordé, accompagner ces personnes chez le médecin, accompagner ces personnes pour faire les courses parce qu'elles habitent dans des endroits un peu parfois éloignés du supermarché. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme accompagnement pour quelqu'un qui arrive, qui connaît pas le pays, qui comprend pas tout, ou qu'on comprend pas grand chose, parce que notre culture est quand même très différente de leur culture, surtout pour ceux qui viennent de très loin, et ils sont majoritaires. Accompagner aussi des personnes qui sont, en difficulté, qui viennent de vivre des choses difficiles. J'aurais pas le temps de vous parler du voyage des personnes migrantes, mais le voyage des personnes migrantes pour arriver en France, c'est quand même quelque chose, il faut aussi se pencher dessus. C'est aussi, en tout cas pour ceux qui traversent la Méditerranée, et les Africains traversent la Méditerranée pour la plupart, une épreuve, parfois tragique, puisqu'ils perdent des amis, voilà, lorsque le bateau chavire. Enfin bon, vous avez déjà entendu tout ça, et ça existe, et nous côtoyons des personnes qui ont vécu ça. Et on ne peut, voilà, et je ne sais pas combien de mois ou d'années il faut passer pour oublier tout ça, et aussi la rupture avec leur pays. Je veux dire, elles partent pas pour faire du tourisme. Elles partent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que elles se sont posé la question pendant des années, et qu'un jour elles ont pris la décision de partir, et donc de quitter leurs parents, leur famille, leurs habitudes, leurs amis, leur culture, et peut-être ne jamais revoir leurs parents, leurs grands-parents, puisque l'idée, c'est de forcément pas toujours de revenir au pays. L'idée aussi, c'est de s'installer ailleurs pour vivre dignement. Partager avec vous un texte qui est sur notre flyer, là.
Oui.
C'est un beau texte, ça change un peu des descriptions que je vous fais. Regarde-les donc bien, ces apatrides. Toi qui as la chance de savoir où sont ta maison et ton pays. Toi qui, à ton retour de voyage, trouve ta chambre et ton lit prêt. Toi qui as autour de toi les livres que tu aimes et les ustensiles auxquels tu es habitué. Regarde-les bien, ces déracinés. Toi qui as la chance de savoir de quoi tu vis et pour qui. afin de comprendre avec humilité à quel point le hasard t'a favorisé par rapport aux autres. Regarde-les bien, ces hommes, entassés à l'arrière du bateau, et va vers eux, parle-leur, car cette simple démarche, aller vers eux, est déjà une consolation. Et tandis que tu leur adresses la parole, ils aspirent inconsciemment une bouffée de l'air de leur pays natal, et leurs yeux s'éclairent et deviennent éloquents. Telle est bien en effet notre nature. Tout le mal qui a lieu ici-bas, nous en sommes informés. Chaque matin, le journal nous lance en pleine figure son lot de guerres, de meurtres et de crimes. La folie de la politique encombre nos pensées. Mais le bien qui se fait sans bruit, la plupart du temps, nous n'en savons rien. Or, cela serait particulièrement nécessaire dans une époque comme la nôtre, car toute œuvre morale éveille en nous par son exemple les énergies véritablement précieuses. Et chaque homme devient meilleur quand il est capable d'admirer avec sincérité ce qui est bien. C'est un texte de Stefan Zweig et qui est extrait d'un de ses livres et qui date de 1930. Je n'ai pas la date exacte. Il est né en 1881 et il est décédé en 1942. Voilà, ce n'est pas un texte récent, mais je le fais mien.
Il est très beau.
Donc, je vais parler de l'apprentissage du français.
Oui.
Voilà. Je vous ai cité la liste de toutes les nationalités des personnes que nous rencontrons. Donc, vous imaginez que les langues qu'elles parlent sont très diverses. Certaines personnes africaines parlent français. Mais elles ne parlent pas que français, parce que dans chaque pays d'Afrique, il y a plusieurs langues, et qui sont leurs langues du quotidien. Et le français, parfois, est moyennement connu et appris et parlé par ces personnes, parce qu'elles sont peu allées à l'école. Alors, pas toutes, hein, y a des personnes qui sont très, très scolarisées, mais chez les Africains, pas beaucoup. Donc, s'ils sont allés à l'école jusqu'à 8, 9 ans, le français est peu parlé, pas lu, pas écrit. Donc, c'est une difficulté. Bien sûr, après, les personnes qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Arménie, du Kazakhstan, n'ont pas l'alphabet. Alphabet que nous. Donc, déjà, la lecture, c'est assez compliqué. Les sons aussi sont très, très différents. Donc, bien sûr, il faut que dans l'apprentissage du français, on prenne en compte toutes ces données-là et qu'on puisse donner des cours qui sont personnalisés, non seulement à cause des caractéristiques que je viens de vous donner, mais aussi parce que chaque personne est différente. Moi, je suis différente de mon voisin. Moi, je suis pas très bonne en langue étrangère, alors que mon voisin, peut-être, est très doué et il sait en parler 5. Voilà. Donc, il faut bien sûr adapter. Pour adapter des cours, il ne faut pas avoir un groupe de 15 personnes, puisque ces 15 personnes, elles ne sont pas au même niveau. Elles n'en tireront pas les mêmes choses de ce cours. On tombera à côté. Donc, il faut faire des petits groupes. Voilà. Donc, ça, c'est possible dans les centres sociaux. Au centre social de Remiremont, il y a des cours de français. Et nous, Asile Accueil 88, à Remiremont, je parle bien de Remiremont, chaque bénévole qui va dans la famille, qui va au domicile de la famille pour créer le lien dont je vous parlais tout à l'heure, peut faire du français, apprendre le français. Mais c'est d'abord le parler, hein, parce que le parler au quotidien, le français n'est pas une langue facile, hein, je veux dire, c'est peut-être une des plus difficiles. Toutes les expressions, la grammaire est compliquée, etc. Donc, c'est déjà parler, répéter les choses, aller découvrir la ville, parler le français en découvrant la ville, aller boire un café, parler le français en buvant le café, etc., etc. Tout ce quotidien simple qui est accessible pour les personnes migrantes, mais aussi pour le bénévole qui n'est pas un prof de français. Il suffit de parler, d'écouter, d'essayer de vérifier si la personne a compris et de recommencer. Voilà. Donc, tout ça, nous avons besoin de personnes qui souhaitent se situer dans cette démarche d'apprentissage simple. Et après, les bénévoles peuvent continuer dans un apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. On peut bien sûr aller plus loin. Et ça, les bénévoles ne sont pas seuls pour faire ce travail-là, parce que notre activité de groupe est importante. C'est-à-dire, nous avons une réunion tous les mois et demi, tous les deux mois, de grands groupes, on va dire, où nous sommes une vingtaine, 25 à nous réunir. Et nous nous rencontrons régulièrement tous les jeudis soirs dans un bar, ça s'appelle Asile Café, pour parler des choses du quotidien, pour nous aider les uns les autres, pour que chacun puisse poser ses questions, et notamment ses questions sur l'apprentissage du français. La personne, le bénévole qui dit c'est compliqué d'apprendre à écrire, comment je fais, etc. Donc nous sommes liés, nous les bénévoles, par des liens importants. Nous souhaitons que ces liens existent parce qu'il faut s'aider les uns les autres, qu'accompagner une personne migrante pour le français ou pour autre chose, c'est pas toujours simple, enfin ça apporte énormément de choses. Je vais vous lire un autre texte. Mais en même temps, on est confronté aux difficultés des personnes, aux traumatismes aussi parfois de ce qu'ils ont vécu avant, bien qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi ils sont partis de leur pays, ils ne nous racontent pas toutes les difficultés, misères ou horreurs qu'ils ont vécues, et on ne les interroge pas sur ce sujet. On n'est pas, voilà, on est, l'accueil, c'est un accueil ici, maintenant. Mais on accueille en tout cas aussi leur parole quand elle vient, mais on le sait qu'ils ont vécu des choses difficiles. Voilà. Et donc notre souhait, c'est que les bénévoles soient pas isolés, donc nous avons des liens forts entre nous. Je vous lis aussi, quand je disais que être bénévole, c'est pas seulement donner aux personnes, c'est aussi recevoir. Parce que cette rencontre est une rencontre importante, extraordinaire, qui est pas permise à tout le monde. Je veux dire, c'est pas à tout le monde qui va passer 2 heures par semaine avec une personne afghane, qui lui raconte son pays, qui lui raconte ce qu'elle a vécu, qui lui dit que sa femme, qu'il est venu tout seul, mais que sa femme est restée au pays avec les 2 enfants, qui voudrait bien le faire revenir, enfin, etc. Toutes ces histoires complexes et souvent tristes quand même, qu'on écoute. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous enrichit parce qu'on apprend des choses, on est dans un apprentissage et dans un partage d'expériences de vie. Je vous lis un texte de Marie-France Etchegouin dans un livre qui s'appelle « J'apprends le français » qui est assez ancien, qui doit avoir quelques 3-4 ans. Donc c'est un témoignage d'une dame qui est prof de français, quoi. « Vous êtes Abdou Salomon Charokan. Je suis Marie-France. » Vous avez dû vous arracher à tout, moi à rien. Vous êtes des migrants et vous devez naître une deuxième fois. Je vous apprends à dire « je suis ». Je suis à l'indicatif, après à l'imparfait, j'étais, au futur, je serai. Mais comment être quand on a temps perdu? Comment conjuguer le temps lorsque le présent est une interminable attente? Lorsque le passé... c'est la guerre ou la misère. Lorsque le futur, c'est l'angoisse d'avoir ou non ses papiers. Et pourtant, semaine après semaine, vous apprenez. Vous vous arrimez au français comme à la dernière bouée. Je suis votre professeur, mais c'est vous qui me révélez le sens des mots. Douleur, bonheur, peur, accueil. Je pensais aider, mais c'est grâce à vous que je découvre qui je suis et donc qui nous sommes. Apprendre le français, être en relation, ça a du sens et notre engagement a du sens. Et il donne aussi du sens aux personnes que nous rencontrons, qui parfois sont sur un long parcours. Ils sont arrivés en France, ils sont soulagés, mais c'est pas fini. Le parcours sera long, c'est parfois un parcours d'errance, où ça continue pendant des mois et des années. Voilà. Alors, venir nous rejoindre, eh bien, c'est pas compliqué. Vous faites un petit mail sur notre adresse mail. C'est moi qui réponds au mail, donc je vous promets que je vous répondrai rapidement. asileaccueil@gmail.com. Il y a aussi un site que vous pouvez aller voir, où nous développons nos activités, nos projets. Il y a des textes aussi. asileaccueil88.fr, www.asileaccueil88.fr. Vous le trouverez assez rapidement, il est bien indexé. Et puis, nous serons heureux de vous accueillir et donc à très bientôt. Merci de votre écoute.
Juste une petite question, oui. Marie-Odile. Vous avez un endroit où les gens peuvent venir vous retrouver, vous rejoindre, vous poser des questions?
Nous n'avons pas de local.
Pas encore, d'accord.
Ben, je pense qu'on en aura... Enfin, nous empruntons des locaux au centre social pour faire nos réunions, mais oui. Nous n'avons pas de local, donc il faut... voilà. Nous rencontrons les personnes à leur domicile parce que nous n'avons pas de local. Voilà, mais pour nous contacter, après, vous nous contactez, vous serez invité à nos réunions. On vous donnera un rendez-vous individuel pour discuter, etc. Vous donner d'autres informations, compléter tout ce que j'ai raconté ce matin.
Ok, et puis
voilà, puis vous réfléchirez à votre investissement ou pas. En tout cas, à bientôt.
Merci. Merci beaucoup. D'être venu, hein, y a aucun problème pour revenir une fois, hein, si besoin, hein, y a aucun problème. C'était très intéressant et c'est vrai que ça sera très intéressant aussi d'aller plus loin.
Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. Il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant. Sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des réveils. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pris son vol pour regagner le ciel. Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de départ, surgit un
Donc bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Donc c'est toujours l'émission de Michel, hein, La parole est à vous. Donc avec Michel de la Ligue des droits de l'homme, une petite précision. Depuis vendredi, lors de notre dernière assemblée générale, nous avons décidé de faire une coprésidence. Donc Michel Minier, coprésident avec moi, Christiane Thiria, et nous avons également deux co-secrétaires. Tout simplement parce que il y a tellement de sujets variés, de réunions et autres, que c'est très bien d'être à deux, on n'est jamais trop. Et voilà, donc vous avez donc deux coprésidents ce matin à l'antenne. Michel, on voulait revenir un petit peu sur notre exposition. Oui. Des droits de l'homme, qui s'est terminée samedi, puisqu'elle sera démontée demain matin. Belle exposition, et puis les rencontres avec les classes ont été très enrichissantes. Nous avons appris quand même des choses très sympathiques de la bouche des enfants. Tu veux en parler un petit peu ?
Oui, ben c'est une exposition sur les droits de l'enfant. Hein, c'est une initiative. C'était mené par l'UNICEF, hein, donc qui a fait une convention relative aux droits des enfants. Et donc, ces droits, depuis 25 ans, qui a été mis avec des textes pour tous les pays dans le monde, évidemment pour l'UNICEF. Hein, donc, sur les 193 pays, quasiment tous ont ratifié. Et donc, la France, il y a des choses à voir, même si les droits de l'enfant... Il y a les droits de l'homme, mais il y a aussi les droits de l'enfant. Et on se rend compte que c'est assez important d'en tenir compte, que c'était pour préciser que cette exposition-là qui a été... présenté à la médiathèque, il y a eu des classes d'enfants qui sont venues donc avec quatre personnes de la LDH pour parler justement de ces droits de l'enfant et comment eux ils les percevaient, hein, dans leur quotidien et à l'école ou dans leur famille. Donc c'était assez intéressant d'écouter sur ces sujets-là, hein, parce que c'est très vaste, hein, ça peut être par rapport à l'école, voir comment est-ce que dans l'école les droits de l'enfant sont respectés au niveau, par exemple, ils ont beaucoup parlé, par exemple, de laïcité, d'écoles obligatoires, gratuites, des choses comme ça,
oui, oui.
Pour des enfants de primaire. Hein. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ces enfants-là ont des consciences sur ça. Par exemple, d'autres sujets quand même qui ont été intéressants sur la discrimination, parce qu'il y avait des classes, justement, où il y avait presque autant de nationalité, en tout cas des parents,
oui.
que d'enfants. Ce qui était quand même assez intéressant, de voir comment est-ce qu'eux, ils le vivaient, cette discrimination éventuelle. Hein, et aussi de vivre ensemble au niveau des enfants. Et aussi par rapport à leurs parents, hein, comment tout ça s'était vécu. Intéressant de voir s'il y avait des discriminations, comment ils les ressentaient. Et aussi des choses sur, par exemple, le harcèlement, hein, aussi sur le droit de l'enfant par rapport au harcèlement qui est quand même toujours très sournois. Alors que ça soit le harcèlement à l'école, hein, ou ailleurs, mais enfin là, c'était abordé entre autres à l'école, hein, parce que c'est vrai que des enfants, c'est difficile de faire repérer qu'ils sont harcelés. Et c'est vrai que tant qu'ils ne le disent pas, et le dire à qui, hein, et même si les autres L'Européen, les autres enfants, eh ben, des fois, ils le laissent, ils laissent faire.
Ils ont peur d'être harcelés à leur tour.
Voilà, ils ont peur de, ben, justement, de se faire harceler. Et puis, ce qui fait que celui qui est harcelé, pour diverses raisons, là, bon, ça a été abordé, mais ça peut être des raisons physiques, ethniques et autres, hein, ou plein de choses. Et donc, la raison est rarement évoquée, mais en tout cas, celui qui est harcelé, souvent, il ne le dit pas. Donc, il y avait quand même quelques recommandations qui ont été faites, hein, par exemple, bah, d'entourer, quand les autres enfants le voyaient, de l'entourer, et puis un qui prévienne la maîtresse.
Un adulte.
Quoi, un adulte, pour justement, mais en évitant toute violence, justement, c'est ça le danger, c'est, ça, oui. C'est qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas une escalade de violence, parce qu'après, bah, c'est des fois le harcelé qui est responsable des troubles. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été évoquées, qui étaient très intéressantes sur ces droits de l'enfant, y compris en France.
Surtout que, sur les rapports qu'on avait, on lit quand même qu'il y a 20% d'enfants qui vivent encore dans la pauvreté et qu'il y a 100 000 enfants en France qui ne sont pas scolarisés. Donc, les chiffres sont énormes. Hein. On pensait même pas qu'il y ait autant d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et puis 20% des enfants vivent dans le seuil, sont sur le seuil de pauvreté. On se dit c'est quand même énorme. Hein. C'est des chiffres quand même qui sont assez gros, assez lourds.
Ben surtout que par rapport à la pauvreté, c'est vrai que quand ils vivent dans ces conditions-là, il faut savoir qu'un enfant qui démarre dans ces conditions difficiles, eh ben, quel avenir il aura, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau social, de s'intégrer. Et c'est vrai qu'après, dans certains cas, il ne faut pas s'étonner que des fois, il y en a qui ont des problèmes d'insertion, mais même de délinquance éventuelle, ou même de drogue, des choses comme ça. Donc c'est vrai que le départ de toutes ces choses-là est importante.
Oui. 310 000 enfants sont sous protection sociale, enfin étaient sous protection sociale. Ça, c'est des chiffres de 2022. Donc, c'est des choses dont on ne parle pas vraiment, dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne parlait pas parce qu'il y avait une omerta quand même sur tout ce que peut subir un enfant. Mais c'est vrai que quand on lit les rapports, hein, comme le rapport de la Ligue des droits de l'homme, hein, sur droits et libertés, on se rend compte que il y a énormément d'enfants qui subissent des sévices, qu'elles soient harcèlement, sévices sexuels, etc. Quand on lit ces chiffres, on reste quand même perplexe, hein, on reste quand même perplexe parce qu'on se dit c'est quand même assez terrible, hein. C'est quand même assez terrible.
Surtout qu'il y a quand même un certain voile qui est mis sur tout ça. Hein. Bon, l'affaire Betaram en a été l'exemple. Hein. L'affaire Betaram a fallu que ça sorte, mais des dizaines d'années après.
Oui.
Et pourquoi? Parce que l'institution était bien protégée par les adultes. Et des adultes responsables, hein, quand même. Et en fin de compte, c'était presque une normalité, entre guillemets, parce qu'il y avait des violences physiques, des violences psychiques, etc. Donc tout ça, c'était accepté, entre guillemets, par les adultes, par l'institution, mais aussi par les adultes qui connaissaient la situation, les parents, et puis les responsables politiques et autres. Donc
pourtant,
c'est ça qui est grave.
Pourtant, sur le rapport qui a été effectué, ils disent bien que les parents, certains élèves et des lanceurs d'alerte ont prévenu, mais personne n'a été cru, en fait.
Non, parce que la victime, c'est comme pour les viols, la victime, on ne la croit pas, a priori.
C'est ça.
Hein? Il faut des preuves, et les preuves lesquelles, et puis souvent, on donne plus des fois confiance à l'autre personne qu'à la victime. C'est souvent malheureusement le cas. Et dans ces cas-là, c'est aussi pour ça que les enfants n'en parlaient pas, parce que en parler à leurs parents, c'était pas la peine. En parler à l'institution, encore moins. Donc tout ça, c'est un ensemble qui est grave. Et les enfants, ils gardent ça. Et ça sort, 10, 20. Quand des fois, il y a l'occasion, là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de révélations actuellement, la parole s'est libérée.
En devenant adulte, voilà. Hein, oui.
Et faut quand même voir que c'est ceux qui ont réussi des fois à franchir le pas, hein, à s'insérer, etc., hein, souvent, ceux qui le disent.
D'ailleurs, au niveau LDH, on a prévu un film hein, qui va sortir au Majestic début janvier. On y reviendra le 9 janvier. Les oubliés de la Belle Étoile. C'est pareil, c'est un film qui rejoint Bétarame, hein, c'est dans un établissement aussi. Et on aura trois adultes, hein, puisque c'était des enfants de l'époque, qui aujourd'hui sont retraités et qui viendront s'exprimer au cinéma. Donc on se rend compte que une fois que ça commence à parler, ça parle, tout le monde, les langues se délient, les gens ont moins peur, les gens se rendent compte qu'en fait ils n'étaient pas des coupables, mais qu'ils étaient des victimes. Et comme on dit toujours, c'est comme pour une femme violentée, tant qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était pas la coupable et qu'elle n'avait rien fait pour arriver à ce stade, eh bien, c'est compliqué de parler. Il faut comprendre qu'on était une victime et non pas et qu'on n'était pas responsable. Et là, on se rend compte que le processus est à peu près le même. Et en plus, quand même sur le rapport, hein, il parle quand même sur ce rapport bah, qu'on peut retrouver hein, sur la Ligue des droits de l'homme, sur droits et libertés.
Du mois d'octobre.
Ouais, du mois d'octobre. On peut retrouver, suite au rapport, où ils disent que ça devient, c'était compliqué et ça l'est encore. Où est la limite de la violence vis-à-vis de l'éducation d'un enfant? Parce que ils disent que il y a eu toute une époque où on avait le droit de taper les enfants, même au niveau des professeurs, hein, ils avaient le droit, mais il fallait pas. Alors, quand ça a commencé à s'inverser, ils cherchaient des endroits en fait pour que ça ne où ça ne se verrait pas. Alors on se rappelle les cheveux tirés au-dessus des oreilles, des choses comme ça qui pouvait y avoir
les coups de règle.
Oui, qu'il y avait à l'époque. Mais enfin, toujours est-il, c'est que quand on lit ces rapports où les enfants subissaient des attouchements, des viols, des sévices corporels et autres. Ça fait vraiment peur. On reviendra sur le sujet puisque de toute façon on va passer ce film sur les oubliés de la Belle Étoile le 9 janvier au cinéma, le Majestic à 20h. Donc ça sera peut-être notre on reprendra cette approche dans un mois.
Oui, le sujet, oui. Il est intéressable parce que même s'il y a des choses qui se dévoilent, qui bougent, mais que ce soit au niveau français, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et faut pas oublier que, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais de sévices, mais il y a l'humiliation aussi de la victime.
L'humiliation de la victime, c'est
et
sûr.
Par rapport à ses copains, c'est ça le pire. Et c'est aussi pour ça qu'il se referme, parce que d'être humilié devant ses copains, eh ben, c'est terrible pour l'enfant, et ben, il fuit tout ça, il se referme.
Ouais, mais c'est...
Il n'a plus confiance en personne.
Donc, oui, deux mots aussi, parce que il y a quand même un livre qui est sorti. Alors, attendez, je regarde si je retrouve le titre. Si les auditeurs se rappellent, nous avions fait une émission. Nous avions fait une émission concernant les jeunes filles qui entraient dans des réseaux pédophiles. Elles étaient recrutées sur Internet et c'était absolument affreux. Affreux ce qu'elles pouvaient vivre et la façon dont elles étaient amenées à vivre justement cette prostitution par Internet. Et il sort un film, c'est un livre... Sous nos regards, voilà, il est intitulé Sous nos regards. Et ce film, ce livre, je veux vraiment qu'il sorte en film, excusez-moi, c'est un récit de la violence pornographique et il a été fait vraiment collectivement avec des jeunes femmes qui se sont trouvées enrôlées dans ces réseaux. on se rend compte quand même que ça a été, et c'est encore aussi, hein, ça fait partie des combats, hein, des combats de la Ligue. Hein,
Ben surtout que ces femmes-là, il n'y a pas de hasard, des fois, si elles se retrouvent là. Alors, il peut y avoir leur enfance, et puis aussi le fait que actuellement aussi avec les nouveaux médias, qu'il y a un développement de diffusion. Autrefois, il fallait des cassettes VHS, comme on dit, et c'était plus compliqué, ou un cinéma où tout le monde savait que tu rentrais là. Alors que maintenant, c'est plus sournois et un développement qui est, et avec l'émigration aussi, il y a eu beaucoup de choses avec les filles qu'on leur a fait croire.
Voilà. Surtout. Et là encore, on peut dire, on peut lancer une petite alerte en disant aux jeunes filles qu'elles ne s'exposent pas sur Internet et surtout qu'elles se méfient quand elles sont pseudo-contactées par des gens qui vont leur faire tourner des films. Parce qu'une fois qu'elles entrent dans ce processus, c'est très, très difficile.
C'est une spirale. C'est une spirale où la pente
très difficile d'en sortir. Voilà, je crois que notre temps de parole est terminé. Et donc, on peut souhaiter une bonne soirée
à tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs.
Michel, tu veux le mot de la fin ? Le mot de la fin, vas-y.
Et puis, rendez-vous pour la nouvelle émission de La Parole est à vous. Qui doit être consacré à un magazine environnement. Et puis, bien sûr, le troisième mardi du mois, donc avec Jean Tisserand, on a déjà préparé un peu cette émission du magazine Santé avec Adémat. Voilà.